Europe 1.
Europe Soir, le débat. Frédéric Taddeï.
Bonsoir, bienvenue dans le débat d'Europe Soir en Italie. 11 semaines après les législatives perdues par le Parti démocrate qui était au pouvoir depuis 2013, les deux partis anti-système, la Ligue de Matteo Salvini, le parti d'extrême droite qui a obtenu 18% des voix, et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, plutôt de gauche et d'extrême gauche, qui a fait 32%, se sont mis d'accord sur un contrat de gouvernement et sur quelqu'un pour le diriger, un professeur de droit nommé Giuseppe Conte. Au programme, tourner le dos à l'austérité et au diktat, je cite, de Bruxelles. 90% des militants des deux partis consultés ce week-end ont plébiscité ce contrat de gouvernement et 60% des Italiens, d'après un sondage de La Repubblica, s'y disent favorables. Une telle alliance entre l'extrême gauche et l'extrême droite peut-elle durer? Et un gouvernement aussi hostile à l'orthodoxie européenne peut-il durer? Et enfin, l'Italie ayant souvent joué le rôle de laboratoire sur le plan politique, la même chose pourrait-elle arriver en France? Pour répondre à ces questions, nous avons invité Pierre Lévy, qui est journaliste, ancien de l'Humanité. Vous venez de publier dans Rupture le mensuel radicalement eurocritique, c'est le slogan dont vous êtes le rédacteur en chef, un article intitulé « Le cauchemar de Bruxelles prend forme ». C'est comme ça que vous avez vu cela, comme un cauchemar, mais pour Bruxelles?
Oui, tout à fait, c'est un nouveau cauchemar pour Bruxelles, et on n'en est qu'au début, en tout cas pour ce qui me concerne, je m'en réjouis.
Vous en réjouissez carrément?
Ah ben ça fait turbuler le système encore un peu plus. Et je pense qu'après le Brexit et après les secousses considérables qui ont marqué les différents scrutins depuis plusieurs mois, ça a déclenché une angoisse et une colère considérables du côté de Bruxelles. Et c'est pas fini.
Guillaume Clossa, vous êtes fondateur du think tank Europa Nova, dont vous avez été le président de 2003 à 2015. Vous avez aussi été Sherpa au Conseil européen de 2009 à 2010. Vous êtes l'auteur d'un livre, Une jeunesse européenne, paru chez Grasset. Comment avez-vous reçu cette nouvelle de cette alliance?
C'est pas une surprise, parce que le système institutionnel et politique italien faisait qu'il n'y avait pas beaucoup d'alliances possibles. Et donc, au final, c'était la plus probable. Mais on voit en effet que des extrêmes se rassemblent, et c'est un électrochoc non seulement pour Bruxelles, mais dans toutes les grandes capitales européennes. Et ça a un impact. On le voit déjà sur les monnaies, la stabilité de l'euro. Donc, on est vraiment au début d'un processus, et ça va être une période stimulante, pour utiliser un mot positif, qui va demander de la créativité, parce que l'Europe doit se relancer, se refonder, et pour ça on a besoin de partenaires, et il y a besoin de plusieurs leaders européens autour de la table. Si Emmanuel Macron se retrouve tout seul parce que les Allemands ne suivent pas, parce que les Italiens sont sur une autre ligne, parce que les Espagnols sont préoccupés par d'autres choses, et que les Polonais remettent en question les fondamentaux démocratiques de l'Union, ben on va avoir du mal à avancer ensemble.
Hervé Juvin, vous êtes économiste, vice-président de Géopragma, un think tank de géopolitique que vous avez fondé avec Caroline Galacteros, qui était assise dans ce studio il y a peu. Vous venez de publier Le Moment politique, un manifeste écologique et antilibéral aux éditions du Rocher. Comment avez-vous pris la nouvelle?
Manifeste écologique et social,
et
si
social,
vous me permettez.
Pardonnez-moi.
Comment prendre la nouvelle? Le ton général est à l'alerte. Je crois au contraire que dans beaucoup de capitales et au sein de beaucoup de nations européennes, il y a quelque part un vent d'espoir. Est-il fondé? Je n'en sais rien. L'espoir, c'est que nous sortions de référendums volés et de votes interdits, en quelque sorte de la confiscation de la voie démocratique par l'Union européenne. Je ne pense pas, contrairement à ce qui est dit, que ce vote soit anti-européen. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui est contre l'Europe. C'est l'Union européenne qui travaille à déconstruire les nations. C'est l'Union européenne qui ne veut pas affirmer des frontières extérieures à l'Europe. C'est l'Union européenne qui en finit avec l'unité des nations européennes et quelque part qui rompt avec la longue histoire et avec l'identité des peuples européens. Et à cet égard, je crois que l'espoir doit dominer. Mais je rejoins ce qui a été dit. C'est naturellement un espoir prudent. Parce que cette coalition, à bien des écarts surprenante, a livré une ligne de conduite dont on peut douter qu'elle soit totalement suivie dans les mois à venir. Donc attendons et nous verrons bien. Une chose est certaine, c'est que l'Union européenne telle que nous l'avons connue est morte. pour moi, elle était morte avec la négation des référendums français et néerlandais au milieu des années 2000. L'Union européenne, telle que nous la connaissons, est morte à partir du moment où l'un des pays fondateurs adopte la position qui est celle de l'Italie aujourd'hui.
Pierre Jacquemin, vous avez été le proche conseiller de Myriam El Khomri avant de démissionner avec fracas pour marquer votre désaccord avec la loi travail. Vous avez publié à l'époque chez Fayard un livre intitulé « Ils ont tué la gauche ». Vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef de Regard, un journal d'information de la gauche critique dont Clémentine Autain est députée France Insoumise et la directrice de publication. Vous, comment l'avez-vous pris ?
Plutôt avec inquiétude. Je ne peux pas me réjouir aujourd'hui qu'un gouvernement d'extrême droite, parce que pour moi ça reste un gouvernement d'extrême droite qui s'est composé aujourd'hui en Italie, et que la montée des populismes, parce que le moment européen c'est un moment populiste, je crois qu'on traverse un moment populiste, l'extrême droite est en train de progresser partout en Europe, et il y a deux dérives à mon avis aujourd'hui que l'on connaît en Europe, c'est à la fois la montée, la poussée de ces extrêmes, l'extrême droite notamment, et aussi cette troïka, enfin cette espèce de technocratie européenne qui n'a qu'un mot à la bouche, qui est celui de la rigueur budgétaire, celui de la défense des déficit, celui de la défense, de la suppression des effectifs, la suppression de la dette. Et c'est cette politique aujourd'hui qui conduit à des dérives qui font qu'aujourd'hui les populations souffrent socialement des politiques d'austérité, et que donc tant qu'il n'y aura pas de remise en cause de ces politiques libérales, l'Europe continuera de progresser dans ce sens. Je ne crois pas aujourd'hui que c'est un projet de repli identitaire, de repli des nations, qui peut promouvoir aujourd'hui la paix entre les peuples, parce que c'est ça aussi la question européenne, c'est la question de la démocratie, c'est la question de la paix entre les peuples, la question de l'harmonisation sociale aussi, pour que les uns et les autres vivent dans une Europe pacifiée et qui puisse aussi promouvoir une démocratie. L'Europe s'est construite sur la question économique et non pas sur une question démocratique. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de construire cette Europe démocratique en premier lieu.
Guillaume Clasat, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je serais beaucoup plus prudent que certains de mes collègues ici. D'abord, les Italiens restent profondément pro-européens. Ils ont profondément adhéré, et jusqu'à il y a peu de temps, ils étaient les plus pro-européens de tous. Ils en veulent un peu à l'Europe, mais ils en veulent surtout aux États membres qui n'ont pas été solidaires. Et c'est plus l'Europe des nations. C'est-à-dire que chacun a défendu que les institutions communautaires qui ont fait du mal à l'Italie, si quelque part il faut voir. Et ils ont été très déçus. Et des Français, et des Allemands. Donc je serais très prudent pour ne pas mettre toute la faute sur les institutions européennes. Deuxièmement, il y a un vrai sujet qui est la classe politique italienne. Et elle avait du mal à se renouveler. Elle s'est renouvelée une première fois dans les années 90 avec l'opération Manu Pulite. Et puis on a vu deux partis qui avaient une certaine forme de populisme, le parti de Berlusconi et puis Renzi, qui lui-même avait des accents populistes. Et quand les leaders de formations dites modérées commencent à avoir des accents populistes, ben ça aide aussi l'ensemble de la classe politique à devenir populiste. Et puis troisièmement, je décentrerai un petit peu le débat, parce qu'on dit voilà, partout en Europe les populismes montent, mais on voit que partout dans les démocraties le populisme monte aujourd'hui. Et je pense que c'est lié à quelque chose de bien plus fondamental, c'est que la mondialisation telle qu'on la vit aujourd'hui n'est pas celle d'hier, qui était menée par l'Europe et par l'Occident, avec nos références, et depuis 10-20 ans, et on le voit parce que les pays les plus exposés à la mondialisation ont été les premiers à avoir monté le populisme, je pense notamment aux Pays-Bas au milieu des années 90, on perd nos repères. On perd nos repères parce qu'on avait des repères de dominants. Et on est dans un monde où on n'est pas vraiment dominé, mais on sent qu'on risque de ne pas l'être. De l'être. Et ça nous remet profondément en question. Et c'est une question identitaire profonde auquel nous n'avons pas encore répondu.
On fait une pause et on commence ce débat.
Europe Soir, le débat. Frédéric Taddeï.
Deux partis anti-système qui forment le gouvernement, ça se passe en Italie, c'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. Mais alors ces deux partis anti-système, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, qu'ont-ils de commun, Pierre Lévy, est-ce qu'ils sont compatibles, et est-ce que le programme qu'ils ont mis au point, approuvé d'ores et déjà, d'après un sondage, par 60% d'Italiens, les réunit à quel niveau ?
Alors, pour répondre à votre question, je voudrais quand même préciser que pour ce qui me concerne, je n'ai aucune certitude sur ce qui va se passer maintenant. Il y a de telles forces qui vont se mettre en branle pour faire échouer cette expérience Et les acteurs dont vous venez de parler ne sont pas non plus forcément les plus déterminés à agir dans le sens où qu'ont exprimé les acteurs. Donc, pour l'instant, c'est l'incertitude. Ce qui, en revanche, me semble clair pour ma part, c'est le sens du vote qui a été exprimé. Et ce vote, encore une fois, s'inscrit dans la même lignée que ce qui s'est passé en Autriche, en Allemagne, en République tchèque, etc. Et évidemment, après le Brexit. Donc, je réagis sur un mot qui a été prononcé tout à l'heure. Vous avez dit, il va falloir maintenant faire preuve de créativité. La créativité, c'est le concept qui a toujours été employé par les dirigeants européens quand il s'est agi de retourner le résultat des référendums ou de nier les résultats des élections. Donc, il ne s'agit pas d'être créatif, il s'agit de respecter. Et ce que les Italiens ont exprimé, c'est la volonté d'en finir avec cette domination de Bruxelles. Alors, vous pouvez évidemment le regretter. Mais aujourd'hui, c'est ça qui domine et c'est ça qui agace, qui angoisse et qui met en colère, vous avez raison, pas seulement Bruxelles, mais les chancelleries européennes, mais les marchés financiers, c'est-à-dire toutes ces forces oligarchiques qui se liguent contre les peuples dès lors que les peuples expriment des mauvais choix. Et depuis plusieurs mois, ils n'arrêtent pas d'exprimer les mauvais choix. Donc je crois qu'il faut souligner cet aspect, en finir avec ce concept de populisme, un mot valise qui explique tout et rien. En réalité, la sensibilité populaire du nord au sud du continent, de l'est à l'ouest, est de dire que ce carcan, ça va, on a déjà donné, et que les résultats ne sont pas seulement dus au contenu des politiques qui ont été menées par Bruxelles et les dirigeants européens, ils sont liés à la nature même, à l'essence même de ce qu'est l'intégration. On a aujourd'hui une palanquée de déclarations de commissaires européens, ainsi que de la ministre française de l'Europe, qui dit, bien sûr, on va respecter, mais quand même, il faut qu'ils continuent, les dirigeants italiens, quels qu'ils soient, doivent tenir leurs engagements et mener une politique raisonnable. Je ne fais pas la liste des citations.
Aux engagements internationaux, aux traités qui sont supérieurs, comme vous le savez, à la loi des peuples.
C'est précisément le problème, c'est d'ailleurs ce que les Britanniques ont compris en décidant d'en sortir, et c'est ça qui est en quelque sorte fort de café, c'est-à-dire qu'on dit au peuple, on va respecter votre choix, à condition qu'il soit conforme à celui des autres. Mais ça ne peut pas marcher. La souveraineté de chaque peuple doit être respectée, enfin, et qu'on puisse enfin se poser la question d'en sortir.
Pierre Lévy n'a pas vraiment répondu à ma question. Peut-être que vous allez y répondre, Hervé Jubin. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces deux partis protestataires, à part le fait d'être protestataires? L'anti-austérité, ça, ils l'ont en commun?
Ce qu'ils ont en commun, c'est une commune revendication. La commune revendication, c'est de représenter le peuple italien contre des élites qui, en quelque sorte, lui auraient volé son vote, l'auraient détourné de sa véritable vocation et de son identité. Et le projet, c'est tout simplement de renouer avec un grand projet italien national au sein de l'Europe. Je le répète, et vous l'avez dit à juste titre, il n'y a peu de pays plus attachés à l'Europe que l'Italie, je n'ai pas dit à l'Union européenne. Pour répondre à votre question, moi j'inviterais les auditeurs à faire un exercice simple. Chaque fois que le mot populisme est prononcé, le remplacer par démocratie. Ils verront, ça marche très bien. Ceux qui emploient à tout moment le mot populisme, en général, c'est tout simplement parce qu'ils souhaitent que les peuples ne votent plus. Dans cet exercice-là, vous m'avez posé la question de ce qu'il y a de commun et ce qui divise. La Ligue, c'était la Ligue du Nord. La Ligue a des bases libérales. C'était plutôt un parti de milieu aisé. Et c'était quand même un parti qui refusait la solidarité entre le nord de l'Italie, beaucoup plus riche, beaucoup plus industriel, beaucoup plus actif, et le sud de l'Italie. Ça va être très intéressant de voir comment la Ligue, réformée, réalise son implantation nationale. Quant au mouvement 5 étoiles, il était alors presque totalement protestataire, très écologique, très tourné vers le numérique, la démocratie directe, etc. La question va être, va-t-il savoir faire preuve de créativité pour ajuster tout cela au fond nationaliste et au fond, je dirais, de l'Italie dure de la Ligue? Ça va être passionnant, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, ça va être un véritable exercice de créativité politique.
Pierre Jacquemin, sont-ils compatibles? Est-ce que ça peut durer, cette alliance?
Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ça puisse durer sur la durée, d'autant qu'on va avoir une échéance dans un peu plus d'un an, qui est l'échéance européenne, et que je pense que la question européenne, qui cristallise, ou en tout cas qui divise aussi beaucoup les formations politiques de droite comme de gauche, va être un peu un problème pour cette coalition. Par ailleurs, on ne peut
Pourquoi
pas...
Pourquoi? Parce que la Ligue est plus réceptible que le mouvement 5 étoiles?
Ne serait-ce que par rapport à ça, et parce que aussi dans l'accord de gouvernement, ils ont exclu la question du référendum sur la sortie sortie ou pas de l'Union européenne et de la zone euro. Donc en excluant ça, ils mettent de côté les fâcheries et que donc du coup on les verra pour plus tard. On verra pour plus tard, c'est dans à peine un an. Donc
sur l'immigration, pardon.
Et sur l'immigration. Alors là aussi, c'est assez étonnant parce que sur le mouvement 5 étoiles qui se veut un peu plus humaniste, dit-il, que la Ligue, on s'aperçoit que l'accord qui a été obtenu aujourd'hui est un accord hyper autoritaire, ou en tout cas hyper refermé sur les frontières. L'Italie a suffisamment agi en forme de solidarité et accueilli des migrants pour cette coalition. Visiblement, il y a trop d'étrangers dans leur pays, en Italie. Ils disent une chose juste, c'est que l'Europe n'a pas pris la mesure de ce qui se passait en Italie. La France n'a pas pris la mesure de ce qui se passait en Italie, puisqu'elle renvoyait les migrants à la frontière franco-italienne vers l'Italie. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, cette coalition ne me paraît pas être en capacité de tenir sur la durée. Par ailleurs, on ne fait pas un projet de gouvernement sur une opposition. La seule chose qui, aujourd'hui, met ensemble ces deux formations, c'est l'anti-Europe. Ils sont tous les deux, une formation anti-construction européenne. Donc, ils sont pour un retour à la souveraineté de l'Italie. Je ne crois pas, aujourd'hui, que ça fasse un projet politique en soi, et je pense que ça va être une preuve de plus la faillite d'un gouvernement, la faillite d'une coalition qui ne mènera pas les politiques qui sont les politiques les plus essentielles pour le pays. Là encore, on nous explique qu'il y a une partie de gauche qui est intégrée dans ce projet de coalition, le programme économique, c'est réduire la dette. Alors certes, par la relance de la consommation et la relance de l'économie, mais c'est la réduction de la dette. C'est cette obsession permanente des politiques qui veulent réduire la dette et qui ne veulent pas investir.
Eux, ils veulent relancer, mais sur fonds publics, hein, et de là à creuser les déficits. Hein.
Exactement.
Il y a une forme de paradoxe, parce que quand on les lit bien, on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout confiance dans les administrations publiques, ni dans l'État, et en même temps, ils promeuvent la dépense publique, et pour ça, il faut des outils publics bien charpenté pour le faire. La politique économique, c'est un mélange de Reagan, qui avait mis la flat tax, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, 15% et 25%, et de Trump avec les promesses de grandes dépenses, et en plus le revenu universel, puisque c'est ce revenu citoyen de
750 euros par mois, qui est dans leur programme aussi.
Mais le sujet, c'est de faire société. Et on ne voit pas comment, dans leur réflexion, ni un parti ni l'autre, on fait vraiment société. Et puis ensuite, il y a un vrai sujet sur l'Europe, mais il est beaucoup plus compliqué qu'on veut bien le croire, parce que le mouvement 5 étoiles était prêt l'année dernière à adhérer à la LDE, qui est le parti fédéraliste européen de Guy Verhofstadt. Et on a même entendu des rumeurs selon lesquelles s'il y avait une alliance entre les démocrates et le mouvement 5 étoiles,
au
niveau européen, il pourrait y avoir, qui à mon avis était fantasmagorique, il pourrait y avoir un rapprochement entre La République En Marche et le mouvement 5 étoiles. Sans doute des rumeurs, mais ça montre en fait qu'il y a une plus grande complexité. Et quand vous discutez avec les gens du mouvement 5 étoiles, vous voyez qu'il y a des vrais fédéralistes européens et qu'il y a des gens qui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont battus pour enlever la sortie de l'euro et la suppression de la dette, et qu'il y a des gens qui croient à l'Europe telle qu'elle existe ou qu'elle doit être réformée.
On continue ce débat juste après une pause.
Europe Soir, le débat. Frédéric Taddei sur Europe 1.
L'alliance pour former le gouvernement en Italie entre les deux partis anti-système, la Ligue et le mouvement 5 étoiles, est-elle aussi contre nature qu'on peut l'imaginer? N'est-elle pas aussi naturelle que certains le disent? Il y a autour de moi Pierre Lévy, le rédacteur en chef de la revue Rupture. Il y a Guillaume Clossa, le fondateur du think tank Europa Nova. Hervé Juvin, vice-président de Géopragma, et Pierre Jacquemin, le rédacteur en chef du magazine Regard. Alors, la parole est à vous, Pierre Jacquemin.
Oui, tout à l'heure, vous avez abordé la question du vote. Il y a eu un vote, effectivement, il est absolument légitime et il n'est pas contestable. En revanche, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a eu un taux d'abstention qui a été quand même très important et que quand même la question démocratique aussi se pose. Je ne dis pas qu'il s'agit de remettre en cause la légitimité des deux mouvements qui sont en train de faire une coalition aujourd'hui, mais il faut rappeler quand même que la question démocratique n'échappe pas à l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est vrai en France, c'est vrai en Italie, aujourd'hui, on le constate. Et puis par ailleurs, la question qui va se poser aussi maintenant, c'est quel projet pour l'Europe, quel projet, est-ce que c'est la sortie de l'Union européenne qui va être programmée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont exclu cet accord-là, ils ont exclu l'idée de sortir de l'Union européenne, mais c'est quand même quelle vision de l'Union européenne? Et l'échec de la social-démocratie est au cœur aujourd'hui de ce qui se passe en Italie. Il faut aussi que la social-démocratie européenne se pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui une extrême droite arrive en responsabilité en Autriche, en Hongrie, une partie aussi en Allemagne aujourd'hui en Italie. c'est la responsabilité de la social-démocratie. Et c'est ça qui favorise aujourd'hui, je crois, les populismes, notamment de droite, mais aussi le populisme de gauche, puisqu'il y a un populisme de gauche revendiqué, et que donc la question de la remise en cause de ces politiques sociales libérales, la remise en cause de ces politiques d'austérité qui ont été validées par des partis de gouvernement de gauche comme de droite, est un problème. La question de la centralité de l'exercice du pouvoir et du consensus permanent qui est la politique menée à l'échelle de l'Union européenne est un problème et qui aboutit à des impasses qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui en Italie.
Le contrat de gouvernement, donc, il est contre l'austérité. Il prône la création d'un revenu minimum citoyen de 750 euros par mois. Il prône la fin de la vaccination obligatoire aussi et la levée des sanctions contre la Russie. Il y a des tas d'autres choses, mais ça fait partie des trois mesures qui ont été remarquées par tout le monde. Pierre Lévy.
Oui, vous avez posé cette question de ce qui rapproche les deux mouvements. Ce qui, à mon sens, le plus intéressant, c'est moins ce qui rapproche les dirigeants de ces deux mouvements, qui en effet, entre lesquels il y a des contradictions réelles.
Et qui se sont violemment, durement combattus pendant la campagne électorale.
Au point que les observateurs excluaient une telle alliance qui a finalement lieu aujourd'hui. Alors, dans notre journal, on n'avait pas prévu, mais en tout cas, on avait dit que ce n'était pas exclu. Donc, ceux qui avaient expliqué que c'était tout à fait impensable sont, évidemment, peuvent repasser. Mais le vrai problème, c'est ce qui rapproche les électeurs de ces deux mouvements, enfin le problème, l'enjeu. Quoi qu'on en dise, alors moi j'entends les Italiens sont restés extrêmement pro-européens. On peut se targuer de méthode couée, se dire qu'ils sont restés les plus... Enfin, moi je suis journaliste, j'aime bien les faits, et les faits c'est quand même que une large part de la campagne de ces deux mouvements sur des thèmes différents a quand même été contre Bruxelles, pour aller vite, excusez-moi le raccourci.
Et Bruxelles que n'est pas l'Europe.
Contre oui, Bruxelles, mais... et que de ce point de vue, il y a un profond ras-le-bol qui s'est exprimé. Alors, on a parlé de l'austérité, effectivement, c'est important. On a parlé du problème de la migration. Je voudrais rappeler un autre souvenir. Alors, les Français l'ont un peu oublié, mais les Italiens, eux, je pense, ne l'ont pas oublié. C'était en 2011. Berlusconi, qui était alors président du Conseil et qui n'a aucunement ma sympathie, je le précise, avait été gentiment éconduit par les dirigeants de la Commission européenne et surtout Mme Merkel et M. Sarkozy à l'époque, et avait en quelque sorte, à l'insu des électeurs et des citoyens italiens, remplacé Monsieur Berlusconi, et il l'avait conduit vers la sortie. Alors, quoi qu'on pense de Berlusconi, on peut comprendre que depuis cette date, les agissements et la manière dont fonctionne l'Europe, c'est-à-dire soit vous acceptez les orientations et très bien, vous avez le choix, soit vous les acceptez pas et on change le gouvernement quand on change pas vos votes. Donc il y a là profondément quelque chose qui n'est pas d'ailleurs spécifique à l'Italie et qu'on sent monter en Europe un ras-le-bol quant à ce carcan qu'on sent peser un peu partout. Et la France n'est pas exclue de ce tableau. On en parlera probablement dans un instant.
On parlera du cas de la France dans un instant. Hervé Juvin.
Oui, le jeu de l'Union européenne, c'est trop souvent pile je gagne, face tu perds. Et à cet égard, je crois qu'un message politique est important pour le moment politique que nous vivons. Les rappels à l'ordre des sachants et des possédants. Attention à la dette, vous devez demeurer conforme, vous devez rester engagé, etc. Ça provoque l'exaspération. Ça a provoqué l'exaspération en Italie, ça a provoqué l'exaspération en Autriche, ça provoque une exaspération dont nous ne mesurons pas assez les effets dans toute l'Europe de l'Est. Ils n'ont pas échappé à la russification et à la colonisation soviétique pour ça. J'étais récemment avec un ancien ministre polonais qui me disait « Les soviétiques n'ont pas réussi à nous faire enlever les crucifix des écoles, c'est pas les fonctionnaires de Bruxelles qui vont y parvenir. » Les rappels à l'ordre aujourd'hui, la censure, tellement dominante en France sur les opinions non conformes, ça provoque l'exaspération et tout ça, en effet, peut se finir assez mal ou peut se finir de manière très inattendue.
Mais alors, le programme anti-austérité de ces deux partis, leur contrat de gouvernement, on sait qu'il est basé sur une relance sur les fonds publics, donc il va falloir creuser les déficits publics jusqu'à 100 milliards de dollars par an qui vont s'ajouter à la dette italienne qui est déjà considérable, c'est la troisième dette du monde. Ils vont donc ils vont forcément donc s'attirer les foudres de l'Europe. Bruno Le Maire l'a déjà dit, notre ministre de l'économie. Si l'Italie prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, c'est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée. En même temps, qu'est-ce que l'Europe peut faire contre un gouvernement italien qui déciderait de ne plus respecter l'orthodoxie européenne, Guillaume Clossa?
Déjà, la France et l'Allemagne, à certaines époques, ne respectaient pas l'orthodoxie européenne et dans les débats, ils nous ont pris comme exemple. On peut mettre des sanctions, mais on les applique pas. Et donc, les sanctions européennes ne sont pas très, très dissuasives.
Vous considérez qu'elles sont légitimes, les sanctions? Le principe de sanctions?
Non, mais le sujet, il est assez simple. C'est qu'on a une monnaie commune. Est-ce qu'on veut garder ou pas cette monnaie ensemble? Et est-ce qu'on veut en jouer pour en faire un atout dans un monde qui n'est plus européen?
Je
réponds directement à la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut ou pas une monnaie commune? Et est-ce qu'on veut exister ensemble dans le monde ou pas? C'est ces deux questions qui sont liées, qui sont fondamentales.
Si on veut une monnaie commune, on est obligé d'obéir aux mêmes règles.
Il faut des règles communes. Et après, il y a différentes manières de voir ces règles. Il y a une manière qui est de dire on a un budget commun et quand un État a, comme aux États-Unis, comme un État a un problème, ben, on l'aide. Et il y a une autre approche qui est plutôt l'approche allemande, mais qui a été souscrite à la demande des Français, parce que les Français voulaient à l'époque éviter de jouer la solidarité à l'égard des Allemands, parce que la réunification allait coûter cher et les Français voulaient absolument pas être solidaires de cette réunification. Donc on a mis, nous-mêmes Français, on a voulu des règles pour contraindre nos partenaires, et aujourd'hui c'est les Allemands qui veulent que ces règles soient respectées en matière budgétaire. Moi je pense qu'il faut faire évoluer ces règles pour que plus de solidarité fonctionne. Et il y a un second sujet, c'est que nos sociétés sont en train de se fragmenter, de se diviser, et la vision qu'on a de la démocratie, je vais pas appeler ça libérale, mais de la démocratie modérée, elle suppose une grande cohésion sociale. Et il faut remettre ce débat de la cohésion sociale au cœur du projet européen. Alors il y a des efforts qui sont faits, hein. Il y a un pilier de droits sociaux, etc. Mais on ne voit pas l'ambition d'ensemble, et ça mérite une grande discussion. Et cette grande discussion, elle doit commencer par la France et l'Allemagne, qui doivent parler en profondeur, et pas de manière superficielle, des sujets qui nous divisent.
Je suis choqué de vous entendre dire, il faut que la France et l'Allemagne en parlent,
aussi,
parce que je crois qu'une des raisons du vote récent de l'Italie, c'est qu'ils ont eu l'impression d'être les oubliés.
Non, mais vous avez...
Dès qu'on parlait sérieusement, on virait les Italiens de la pièce.
Non, mais vous avez... Alors, d'abord, sur l'idée de la dynamique européenne, elle doit être, bien sûr, à plusieurs, mais aujourd'hui, et telle que fonctionne... Il faut fonctionner de manière réaliste. L'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui n'est pas idéale, fonctionne avec le moteur franco-allemand. Si on n'est pas d'accord, rien n'avance. Et donc, il faut que le moteur franco-allemand soit plus inclusif pour qu'on puisse mieux fonctionner avec les Italiens, avec les Hongrois. Moi, je me rappelle les Hongrois qui, il y a 15 ans, disaient on ne se sent pas inclus, on aimerait participer au... Mais ayons une vision plus ouverte de ce moteur. C'est ce qu'on réclamait plusieurs dirigeants italiens, d'ailleurs.
Je vous interromps, on fait une pause et on poursuit ce débat. On va notamment se poser la question, est-ce que la même chose pourrait arriver en France, la même alliance contre nature, entre guillemets?
Europe Soir, le débat. Frédéric Taddeï.
L'Italie ayant souvent joué le rôle de laboratoire sur le plan politique, c'est Marc Lazare qui disait cela. Ce qui arrive là-bas est-ce que cela pourrait arriver en France? Est-ce qu'on pourrait voir un jour une alliance des partis protestataires, des partis antilibéraux, des partis eurosceptiques, de l'extrême gauche et de l'extrême droite? Est-ce que c'est possible pour vous, Pierre Jacquemin?
D'abord, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent du mouvement de 5 étoiles en France. Considérer que le mouvement 5 étoiles se revendiquerait de la gauche ou de la gauche radicale, je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Et il se revendique sans doute d'un populisme, mais il ne se revendique pas d'un populisme de gauche. Je crois même que la plupart de ceux qui dirigent ce parti sont plutôt issus de la droite, même si aujourd'hui, celui qui a vocation à diriger le gouvernement se revendique, lui, pour la peine individuellement, plutôt de la gauche.
Mais les électeurs, en revanche...
Sans doute, il ne faut jamais nier d'ailleurs qu'il y a des mouvements... ce qui s'est passé avec la social-démocratie italienne, c'est que ça a été extinction de la gauche. La gauche radicale et la gauche traditionnelle a disparu en Italie. En France, la chose s'est passée de manière totalement différente. On a un gouvernement de centre-droit aujourd'hui et qui a fait que on a une gauche qui s'est polarisée sur une gauche radicale qui est aujourd'hui incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Les valeurs que défend aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, quand même, il se revendique d'un populisme de gauche, encore qu'il prend ses distances et il prend, je crois, suffisamment de prudence avec le terme pour pas l'utiliser tout le temps, se revendique de la gauche. Donc ça n'est pas envisageable d'imaginer que Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs c'est assez insupportable, ça m'irrite moi à chaque fois les oreilles quand j'entends le mot Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen associés, parce que ça n'a rien à voir, y compris sur la question économique, y compris sur la question sociale, la question sociétale, tout les oppose aujourd'hui.
Mais la seule chose qui connaissait que tout les opposait aussi, la Ligue italienne et le mouvement 5 étoiles.
Oui, sauf que visiblement quand même l'accord de coalition, j'en parlais tout à l'heure, sur la question migratoire par exemple, visiblement il y a un point d'accord. Vous savez ce qui favorise justement les populismes, c'est cette lecture de la société société qui y aurait eux et nous. Eux, ce sont les gouvernants, ce sont les dominants, et nous, nous serions les dominés, les exploités, une catégorie sociale très hétérogène. Mais ce eux et ce nous serait la cristallisation du débat politique. Aujourd'hui, dans l'électorat, sans doute, il y a la nécessité de fédérer le peuple, mais il y a aussi la nécessité de produire un programme politique cohérent pour ne pas décevoir. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui de les politiques qui doivent être menées, c'est de ne pas décevoir les populations et le peuple. Donc les discours politiques, notamment qui va être celui de l'Union européenne, quel est le projet de l'Union européenne? On dit toujours que Jean-Luc Mélenchon est contre l'Union européenne, il n'est pas contre l'Union européenne, il est contre le projet européen qui est aujourd'hui mis en place. Donc voilà, Marine Le Pen est contre l'Union européenne. C'est deux choses et deux mondes totalement différents.
Elle dirait aussi qu'elle est contre le projet européen tel qu'il est mis en place. Pierre Lévy.
Oui, sur ce point, non. Marine Le Pen n'est plus et depuis longtemps contre le projet européen. Elle est même de plus en plus reconstructive, comme d'autres le furent 10 ans avant. On voit où ça mène.
Est-ce qu'elle est trop européenne, d'après ce que je viens de dire.
Elle a viré sa cutie, si tant est qu'elle ne l'ait jamais eue, si je puis dire, puisqu'elle le dit. Enfin, je veux dire, c'est pas une calomnie que je suis en train de proférer. Tout le discours aujourd'hui, c'est un recentrage en disant il faut certes une autre Europe, ce que tout le monde dit, ou presque, anti-officiellement, mais bien entendu, il ne faut surtout pas mettre en cause le principe même de l'intégration européenne. Est-ce que ce qui s'est passé en Italie peut se reproduire en France ? D'abord, je crois qu'il faut rappeler que chaque peuple, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, ont des cultures politiques différentes, sinon il y aurait un peuple européen, or celui-ci n'existe pas. C'est bien pour ça que faire l'Union européenne n'a aucun sens. Cependant, moi, la seule réponse qu'on peut faire raisonnablement, c'est on voit que ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui. À part ce degré de généralité, je ne poserai pas de prévision. En revanche, je voudrais souligner une chose, c'est que si tous les dirigeants européens sont particulièrement inquiets et angoissés, il y en a un qui est particulièrement impacté, si je puis dire, c'est Emmanuel Macron. Puisque l'axe franco-allemand dont vous parliez tout à l'heure tenait, et c'est l'axe majeur sur lequel il avait misé et qui aujourd'hui s'effondre complètement, puisque maintenant ils sont en désaccord sur beaucoup de choses, il pensait pouvoir lui adjoindre un supplément italien, en quelque sorte, qui aujourd'hui n'est plus du tout de saison. C'est-à-dire que le fameux printemps européen qu'on nous avait promis, et dont Jupiter, alias Emmanuel Macron, s'était fait le chantre, en quelque sorte, est totalement oublié. Peut-être un dernier mot, puisqu'on a évoqué Tsipras. C'est drôle, on fait une sorte de parallèle. Les dirigeants, notamment des 5 étoiles, disent « Oh, l'Europe, on va quand même s'y tenir, malgré tout, hein, on ne va pas transgresser les règles. » C'est aussi ce que disait Tsipras quand il est arrivé au gouvernement, tout en disant « je suis contre l'austérité ». Et on a vu qu'en 6 mois, les dirigeants européens, Bruxelles, l'ont fait complètement céder. Parce qu'on n'ose pas remettre en cause le principe d'être membre de l'Union européenne. Eh bien, moi, je pense qu'il faut que les peuples, le peuple français pour ce qu'il concerne, mais aussi les autres, il n'y en a pas de moins bon, il n'y en a pas de meilleur, reprennent leur liberté. Et c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra sortir de ce carcan qui n'est que austérité, qui ne peut être que ça, et contre la paix et contre la démocratie.
Hervé Juvin.
Le problème d'une histoire d'amour, c'est qu'il faut être deux. Dans la prétendue histoire d'amour du couple franco-allemand, je crois que seuls les Français se racontent encore cette histoire-là. Il n'y a à peu près aucune chance que Angela Merkel, dans la situation qui est la sienne, satisfasse les demandes d'Emmanuel Macron. Ne rêvons pas. La perspective politique française, elle est assez clairement définie. Ça a été évoqué par les suites de la globalisation. Quelques milliardaires, quelques profiteurs des start-up du monde de la finance et des marchés. Une classe moyenne en déshérence. Et une majorité qui, je le crains, va devenir de plus en plus forte, qui est la perdante nette d'à peu près tout. Ça crée probablement la situation politique pour qu'un dirigeant ou une dirigeante construise un programme qui réponde aux préoccupations premières de 2/3 des Français. Et là, peut-être, on verrait quelque chose de nouveau. Je constate que nous n'en sommes absolument pas là. Nous sommes dans un véritable vide stratégique. Je considère que sur les relations avec la Russie et le monde orthodoxe, je considère que sur la position par rapport à l'intégration du continent eurasiatique couvre la perspective des routes de la soie. Je constate que sur le thème de la civilisation écologique ou d'une société écologique européenne, les dirigeants français sont à peu près inaudibles. C'est aussi le résultat d'une élection présidentielle volée, parce qu'il faut quand même rappeler que seul le tiers des Français a élu Emmanuel Macron.
Oui, mais est-ce que c'est volé pour autant ? Est-ce que les gens ne sont pas allés dans les urnes ? C'est le même argument qui a été utilisé tout à l'heure par Pierre Jacquemin. Alors, Guillaume Clossard.
Bien sûr, tout est possible, mais dans le cas italien, il faut regarder deux choses. D'abord, le contexte. et les dirigeants des deux principaux partis qui étaient le parti de Berlusconi. Berlusconi était vraiment en fin de route et n'arrivait plus à mobiliser. Matteo Renzi a fait une très très mauvaise campagne alors que le parti était crédité et les gens ne voulaient plus de Renzi. Ils étaient prêts au Parti démocrate, mais il y avait un besoin profond de renouvellement. Et quand on ne sait pas renouveler, eh bien voilà aussi ce qui arrive. Et puis par ailleurs, les leaders qui sont nouveaux hein, et du parti ou relativement nouveau et jeunes et de la Ligue et du mouvement 5 étoiles voulaient le pouvoir à tout prix. Et donc ils étaient prêts à n'importe quelle alliance pour pouvoir avoir le pouvoir. Et ça, c'est très particulier. En France, jusqu'à présent, si on pense à l'élection, moi, j'avais pas vraiment le sentiment que Marine Le Pen voulait vraiment le pouvoir, ni Mélenchon. Mais c'est parce qu'on quand on veut le pouvoir, on se comporte de manière différente. Mais s'il y a des gens qui sont perçus comme compétents, jeunes et qui veulent vraiment le pouvoir, alors tout devient possible. Et ça peut arriver, et ça peut arriver rapidement. Quant au couple franco-allemand, moi, je pense que ça va le ressouder, cette affaire italienne, parce que...
C'est une pensée magique, ça.
Non, c'est pas une pensée magique, c'est qu'on a des intérêts majeurs communs dans la mondialisation face à la Chine, face aux États-Unis. Il y a des sujets de sécurité, il y a des sujets très concrets. Et si la France et l'Allemagne ne convergent pas, on peut pas avancer.
Les dirigeants français et les dirigeants allemands, parce que la France et l'Allemagne, c'est autre chose.
Parce que l'émission est terminée. Je vous remercie tous les quatre d'y avoir participé. On se retrouve juste après les infos dans le Social Club avec Dany Laferrière de l'Académie française, avec Alain Bauer qui a réussi à faire parler les anciens patrons des services secrets français, avec Roxane Butterfly, la star des claquettes, et Marie Castille, mention char, la réalisatrice de la fête des mères.